Chapitre 36. Au bord du vide.
Laissez-moi là. Idriss et Django, les deux enfants soldats chargés d'assurer les déplacements d'Eugénor, posèrent le conseiller et son fauteuil roulant en haut de l'escalier des appartements Napoléon.
Merci, vous pouvez nous laisser.
Ils dévalèrent les marches et disparurent. Même s'ils n'osaient pas protester, passer leur temps à porter le conseiller dans les escaliers commençait sérieusement à les gaver. D'autant plus qu'Eugénor était lui aussi particulièrement agacé. Il fit pourtant l'effort de sourire à Alix.
Je crois que je ne pardonnerai jamais à Marie-Lune de ne pas avoir prévu d'accès handicapé dans le château après la chute du soleil de fer.
Alix lui rendit son sourire. Elle savait à quel point son conseiller était attaché à leur maman à tous. Qu'est-ce qu'on vient faire ici, Eugénor ? Elle désigna du regard les luxueux appartements royaux. Il est plus de minuit, je ne suis plus reine, je n'ai plus le droit d'être ici.
Je voulais te remercier, Alix.
Allons, marchons.
Marchons ?
L'expression était curieuse dans la bouche d'Eugénor, mais depuis un an, Alix s'y était habituée. Elle poussa le fauteuil dans le couloir, traversant les chambres et les salles encombrées de pièces de collection.
« Me remercier, pourquoi ?» demanda Alix.
Eugénor bloqua les roues du fauteuil devant un buste en plâtre de Napoléon.
« Grâce à toi, nous allons gagner la guerre. »
Alix, surprise, repassa devant le fauteuil et s'installa face à Eugénor dans un siège en velours pourpre à accoudoirs en bois, un Voltaire, d'après Valère, un truc qui valait une fortune avant, du temps où les choses se payaient avec de l'argent.
« De quelle guerre parles-tu ?»«
De celle contre les enfants de la Tour Eiffel. De quelle autre guerre veux-tu parler ?»« Cet affrontement que nous préparons depuis des années. »
Eugénor fixait, derrière Alix, le buste blanc de Napoléon, son menton relevé et sa tête fière et droite surmontée d'une couronne de laurier.
« Comme nous, les enfants du dehors grandissent. » Prennent confiance en eux, commencent à s'attacher à leur petit mode de vie et se persuadent qu'il est le meilleur possible. Comme nous, ils perçoivent tout ce qui est différent comme une menace. Leur force s'accroît, et la peur est toujours proportionnelle à la force, c'est le moteur de toute violence. Il fallait en finir.
« En finir ?» répéta Alix sans comprendre.
« Gagner, si tu préfères. Prendre le pouvoir sur la ville. » Les contrôler, les convertir, les éduquer. Les coloniser, aurait-on dit il y a quelques siècles. Et, grâce à toi, notre victoire sera complète.
Eugénor s'exprimait toujours avec un calme parfait, mais jamais il n'avait prononcé de tels mots auparavant.
Alix avait toujours cru qu'il était du côté de la paix. Son conseiller avait-il joué un double jeu toute cette année?
Il cessa enfin de fixer la statue napoléonienne pour regarder la reine déchue droit dans les yeux.
« Tu as l'air surprise, Alix, » s'étonna-t-il faussement ironique. « Je crois qu'il vaut mieux que je reprenne depuis le début.
Tu as été une bonne reine, une excellente reine, plus sensible, plus rebelle, moins docile que je ne le pensais, mais au final, ça ne t'a rendu que plus facile à manipuler. » Et puis, l'histoire m'oubliera, oubliera les hommes de l'ombre comme moi. Elle ne retiendra que ton nom, la reine Alix Première, celle qui a mené les enfants du château à la victoire. Que dis-je ? Au triomphe !
Le visage d'Alix était déformé par la colère, en contraste avec les traits apaisés du conseiller.
C'est bon, Eugénor. Arrête ton baratin de comploteur en chef. Tu vois ? Je n'ai plus de couronne sur la tête, alors tu peux y aller sans me faire de courbette.
Je te regretterai, Alix. Aucune reine, aucun roi qui te succédera n'aura ton franc-parler.
Il y a un an, quand je t'ai choisi, je cherchais une fille pas trop intelligente et qui puisse facilement devenir populaire. Tu avais le profil parfait. Le reste, ensuite, n'était pas très difficile. Truquer le tournoi de l'étoile l'année dernière pour que tu le gagnes. Avec 3 médailles autour du cou, tu étais si souriante et si peu fière que personne ne pouvait plus rivaliser avec toi pour être élue reine. Toute cette année, avec cet idiot de Zizo,
Tu t'es interrogé sur l'instinct, l'intuition, la chance. Comment toi, qui n'avais aucun talent particulier, avais-tu pu gagner ce tournoi? Eh bien, tu as ta réponse. On n'explique jamais rien par la chance ou les coïncidences. Il y a toujours une explication logique. Le cœur d'Alix battait de plus en plus vite, mais elle peinait à respirer, comme si le poids des révélations d'Eugénor bloquait sa poitrine. Maintenant, elle comprenait ce sentiment d'imposture qu'elle éprouvait depuis un an, ce malaise qu'elle avait toujours ressenti. Elle n'avait pas mérité de gagner ce tournoi. Elle ne méritait pas d'être reine. Elle n'était pas à sa place dans ses appartements luxueux. Elle regarda avec dégoût le décor fastueux, les lustres de cristal désormais inutiles, le parquet ciré, les tapisseries au mur, les œuvres d'art posées sur les meubles, les vases de faïence et les statuettes de bronze. Eugénor, lui, en admirait chaque détail. D'autres se seraient laissés corrompre, Alix. D'autres rois ou reines après toi se laisseront acheter, parce que pour rien au monde, ils ne voudront quitter ces beaux appartements pour retourner au dortoir. Mais toi, tu te moques du luxe, et plus encore du pouvoir. J'espère que tu resteras toujours ainsi, Alix. Je l'espère vraiment. Naturel, désintéressé et incorruptible. Le château a besoin de filles comme toi. Je ne pouvais pas t'acheter. Tu es trop pure pour cela. Alors, je me suis servi de ta sensibilité. Alix se leva, incapable de se contrôler davantage. Le calme d'Eugénor dans son fauteuil la rendait folle. On aurait dit que dans le cerveau de ce garçon de 12 ans, s'était caché un adulte machiavélique 5 fois plus âgé. Et elle pressentait qu'il n'en était qu'au début de ses révélations. Il n'y a pas de coïncidence, Alix. Souviens-t'en toujours. Ce qui se produit a forcément été décidé par quelqu'un, dans un but précis. Tu veux un exemple? Laisse un simple carreau cassé à une fenêtre du château, sans barreau, et je suis certain qu'un enfant du tipi va y être envoyé. Installe une statue en équilibre, qui ne demandera qu'à tomber quand cet enfant se faufilera dans la pièce. Envoie une fille au grand cœur s'y cacher. Et la suite est écrite d'avance. La fille et l'enfant du tipi, qui croit lui avoir sauvé la vie, deviendront amis. La reine et son chevalier. Ce n'est pas très original comme histoire, mais je t'avoue, Alix, que s'il y a bien une chose dont la nature m'a privée, à part l'usage de mes jambes, c'est l'imagination. J'aime trop que les événements s'enchaînent logiquement, comme je les ai organisés. Alix avait envie de saisir le fauteuil roulant d'Eugénor et de le pousser dans le couloir des appartements de la reine, jusqu'à l'escalier. Pour tester un enchaînement logique d'événements, un enfant qui descend un escalier en fauteuil roulant arrive-t-il vivant en bas? Zizo devait être renvoyé chez lui, continuait d'expliquer doucement Eugénor, au tipi, pour révéler à ses amis les informations que j'avais choisies. Mais il ne devait pas se douter qu'on l'utilisait à son insu comme messager. Il devait vraiment croire qu'il s'était échappé. Et pour cela, il devait en vouloir aux enfants du château. Il fallait le rendre impopulaire, haï, jalousé de tous les enfants du château, sauf de quelques-uns prêts à l'aider à s'évader. Alix explosa.
« Comme pour moi, c'est toi qui as trafiqué le tournoi de l'étoile. Tu as voté pour la suppression de ce tournoi pourtant, après la chute du soleil de fer. »
« Oui, pour que personne ne puisse me soupçonner. Mon vote n'avait aucune influence. » Les 3 délégués étaient pour le maintien du tournoi et cela suffisait pour obtenir une majorité des 5 membres du conseil. Tu n'as pas remarqué que je soutiens presque toujours celui des membres du conseil qui est seul contre les 3 autres? Ainsi, il me voit comme un allié et ça ne change rien à la décision finale.
C'est toi qui as volé la carte d'Osman?
Oui, et cet idiot de Zizo l'a même dépliée devant tous les enfants. Je n'en espérais pas tant de la part de ce petit sauvage. Qu'un étranger n'appartenant à aucun des 3 pavillons gagne le tournoi suffisait déjà largement à en faire un bouc émissaire que tout le monde détesterait, en particulier les enfants soldats qui croyaient tant à la victoire du noble Novak, à coup sûr le futur roi. Je te le répète, Alix, la chance, le hasard, ça n'existe.
Ok,
coupa l'ancienne souveraine. Alix première est peut-être la reine la plus stupide depuis la préhistoire,
Mais le coup de l'enchaînement logique de tes petites combines, j'ai compris. Et je comprends pourquoi tu m'as suggéré que Zizo devait s'évader avec un plan du château que tu m'as confié, indiquant une entrée secrète souterraine.
Ogénor ne put masquer un sourire de fierté. J'avais besoin de savoir où et quand les enfants du Tipi attaqueraient, et qu'à aucun moment ils ne doutent des informations que rapportait l'espion que je renvoyais chez eux.
Alix éclata de rire. Elle repensa au baiser qu'elle avait déposé sur les lèvres de Zizo. Sauf qu'il y a un détail que tu n'as pas prévu. Un détail qui te dépasse complètement. Les sentiments. Zizo devait brûler le plan avant de rejoindre le tipi, et sans ce plan, il était incapable de retrouver le chemin. Et je suis certaine qu'il l'a fait, parce qu'il me l'a promis. Et que même si tu as tout fait pour qu'il déteste les enfants du château, je sais qu'il ne nous a pas trahis. Il ne m'aurait jamais trahi, parce que...
Alix s'arrêta et défia Ogénor du regard. Aussi rusé et machiavélique qu'était son conseiller, elle était persuadée qu'il avait échoué. Parce qu'il n'était qu'un serpent froid qui ne comprenait rien à la force des sentiments qui pouvaient relier deux enfants.
Ogénor se contenta une nouvelle fois de répondre à sa provocation par un horripilant sourire. « Parce que vous êtes amis, c'est ce que tu veux dire? Parce que tu l'aimes et qu'il t'aime ?»
Bien entendu, Alix, je te rassure, Zizo a brûlé ce plan.
Mais il ignorait que j'en avais glissé un second, strictement identique, au fond de la poche soigneusement recousue de sa veste. Il a dû paraître si navré de livrer ce plan, malgré lui, à ses amis du tipi. Comment aurait-il pu douter de sa sincérité?
Alix resta un moment silencieuse, observa le fauteuil roulant,
puis se leva et d'un geste rageur balaya du bras tous les vases et statuettes posées sur le buffet en acajou ciré devant elle. Ils explosèrent sur le parquet en un vacarme effrayant. Sans même sursauter, Alix se tourna vers l'enfant handicapé, les larmes aux yeux.
« Qu'en penserait maman, Ogénor? Qu'en penserait Marie-Lune? Toi qui l'aimes tant, penses-tu qu'elle aurait été d'accord avec tes coups tordus ?»«
Je n'ai commis aucun crime. J'ai simplement défendu le château du mieux que je le pouvais. Nous n'avons pas le droit de faire n'importe quoi, Alix. Nous ne pouvons pas être comme les enfants dehors, à passer nos journées à jouer, manger et dormir. »«
C'est faux et tu le sais! Certains enfants du tipi savent lire et écrire. Certains possèdent même quelques livres et... »
Je sais, Alix. Quelques livres avec beaucoup d'images. Un livre d'animaux ou de plantes ou de médicaments. Quelques dictionnaires. C'est moi qui les ai laissés traîner. Une petite dizaine de livres près du fleuve il y a plusieurs années. Toute leur connaissance du monde ne repose que sur ces 10 livres. Te rends-tu compte?
Le conseiller leva les yeux au plafond, observant les fresques d'anges joufflus qui se tenaient la main au milieu de doux nuages blancs.
« Si j'avais laissé traîner un livre de contes de fées, il croirait que les dragons existent ou que les hommes d'avant volaient sur des balais. Comprends-tu que notre responsabilité est énorme? Nous avons une mission. Une mission que nous a confiée Marie-Lune. Nous sommes l'avenir de la Terre. » Nous n'avons pas le droit d'échouer. Nous ne savons pas pourquoi nous avons été placés là, dans ce château, ensemble, mais je sais seulement que nous avons tous un rôle à jouer dans le monde futur. Toi comme moi. Marie-Lune s'est battue jusqu'à sa mort pour cela. Pour nous. Et je me battrai aussi.
Si Ogénor avait espéré impressionner Alix, c'était raté. Elle haussa les épaules, puis fit un pas vers lui et le toisa à nouveau, comme si elle avait repéré la faille dans son raisonnement. Et des bris de faïence crissaient sous ses pieds.
« Comment sais-tu que nous avons tous un rôle à jouer? Pourquoi ce truc, cette mission serait-elle tombée sur nous, comme par miracle, comme par hasard? Tu ne m'as pas dit que tu n'y croyais pas, au hasard? Ouh, il y a quelque chose que tu ne me dis pas? Ça a un rapport avec la tombe de Marie-Lune? Ça a un rapport... avec nos parents ?»
Ogénor hésita. Il regarda longuement Alix, mais finalement ne répondit pas. Alix fut alors persuadée qu'Ogénor lui cachait un secret. Un secret sur leur origine.
qu'il en savait davantage que n'importe quel autre enfant. Lasse d'attendre, elle poussa un soupir. Elle se tourna, jeta un coup d'œil panoramique aux dorures des appartements royaux, c'était sûrement la dernière fois qu'elle les voyait, puis demanda d'une voix fatiguée « Alors c'est parti. Plus de négociations possibles. Les enfants du tipi vont venir nous attaquer. » Ils sont là, ou presque, piégés. Nous les avons attirés comme on attire une souris devant la porte d'une cage avec un morceau de fromage. Piégés? Tu en es certain? Ils sont aussi nombreux que nous. Ils ont le même âge que nous. Ils sont aussi forts que nous. Ils seront armés de couteaux, de haches, de pieux. On ne fera pas le poids avec nos beaux. Génor appuya ses mains sur les roues du fauteuil et le fit pivoter. Il commença à sortir de la pièce, comme si, le combat approchant, il devait rejoindre le champ de bataille. Il laissa traîner un petit rire. « Que tu es naïve, Alix Première. Crois-tu que je laisserai ainsi une bande de sauvages venir nous exterminer ? Le Conseil a pris une décision importante il y a quelques semaines. Une décision capitale. » Alix marchait à pas rapides derrière le conseiller. « Laquelle ? J'ai assisté à tous les conseils. » Augénor répondit sans même se retourner. « Autoriser la fabrication d'armes ? Je sais, c'est contraire au premier commandement de Marie-Lune, mais c'est une mesure d'urgence temporaire. Le Conseil n'a jamais voté ça. Tu as partiellement raison, mais je t'assure qu'une majorité des membres du Conseil est d'accord, 3 sur 5, Jeanne d'Arc, Isalis et moi. Tu comprendras qu'il nous fallait garder cette décision secrète. Lio ainsi que beaucoup d'enfants savants y sont fermement hostiles.
« Et moi aussi !» hurla Alix. « Et presque tous les enfants singes ! Et la grande majorité des enfants du château ! Quand ils sauront que vous avez désobéi au premier commandement, vous serez tous renvoyés ! Exilés !»
Alix hurlait ses menaces au dos d'Augénor qui continuait de rouler au même rythme, sans ralentir ni accélérer. « Quand les enfants du tipi attaqueront avec leurs armes préhistoriques, expliqua-t-il d'un ton posé de général certain de sa victoire, et que nous sortirons nos arcs, flèches et autres surprises maniées par des soldats entraînés en secret, tous les enfants du château nous remercieront. Et tous voteront ensuite pour un futur roi ou une future reine qui, je te l'assure, sera un enfant soldat, déterminé, discipliné, et aura pour seul objectif la défense de la sécurité du château. Un roi beaucoup moins naïf que toi. Un roi qui ne tombe pas amoureux des petits sauvages. Un roi qui ne nous met pas en danger. » Augénor ralentit enfin sa course. Il était parvenu en haut de l'escalier. Il s'arrêta au bord de la première marche, semblant narguer Alix et lui murmurer « Vas-y, pousse-moi. Pousse-moi si tu l'oses. » Augénor attendit quelques secondes, puis, pour la première fois, sa voix se fit plus douce. Son ton arrogant se teintait enfin d'un accent d'humanité. « C'est pour toi que je fais cela, Alix. Et pour Sabi, pour Lunella, pour les Lolly Girls, pour l'art, pour la science, pour la paix, pour l'amour. Comprends-tu cela? Dans ce monde sauvage, nous sommes les seuls enfants civilisés. » Alix posa ses mains sur les poignées du fauteuil. Un vide de 20 marches s'ouvrait devant les 4 roues. Elle se pencha pour parler à l'oreille de son conseiller. « Tous les enfants savent rire, jouer, s'entraider, aimer. Nous ne sommes pas supérieurs à eux. » « Si, et tu le sais. Et notre devoir est de les aider malgré eux. Et pour cela, nous devons d'abord leur prouver notre supériorité. » Tu ne récolteras que de la haine. Tu as raison, de la haine et de l'amour. Ce mélange-là, c'est l'énergie qui fait tourner le monde. Remercie-moi, je vous laisse jouer avec elle. Moi, je ne la ressens pas. J'essaie simplement de la contrôler le plus froidement possible. Je te plains. Non, remercie-moi, répéta-t-il. Alix crispa plus fort encore ses mains sur les tiges de métal du fauteuil roulant. Un instant, elle eut envie de fermer les yeux et de se laisser chuter avec l'enfant handicapé. Au dernier moment, avant qu'elle ne ferme les paupières et ne fasse un pas en avant, un détail étonnant attira son regard à travers les vastes fenêtres du château. La lune semblait dissimulée par un voile gris, tel un épais nuage de fumée. Au-delà des tours et des immeubles de la ville, vers la forêt, rougeoyait une étrange clarté, comme un soleil qui se lèverait du mauvais côté, plein ouest. Le monde était-il en train de basculer? Sa raison était-elle en train de chavirer? Elle avança d'un pas, poussant le fauteuil devant elle. Eugénor ne prononça pas un mot quand les roues tournèrent dans le vide au-dessus de la première marche. Il n'esquissa pas le moindre geste quand le fauteuil bascula, déjà emporté par son poids, dans la vertigineuse descente de marbre. Il exprima juste un sourire quand il se bloqua. Trois enfants soldats se tenaient devant eux, en haut de l'escalier, surgis au dernier moment de derrière les piliers où ils attendaient. Idriss et Django avaient déjà empoigné le fauteuil du handicapé. Jean d'Arc, une marche en dessous, se contenta de deux mots. « Ils arrivent. »«
Parfait, » répondit Eugénor. « Préparons-nous. »